On est de retour au Club du matin, il est 8h15 et on est à la recherche de Gabriel Grégoire. Si vous le voyez, dites-lui qu'on le cherche. Alors, c'est les joies du direct. Des fois, la technologie aussi fait défaut. Tout ce que ça prend, c'est une antenne de cellulaire qui tombe à terre parce qu'il y a un coup de vent. Puis là, soudainement, ça défait nos plans.
Difficile. Mais rappelez-vous.
On va continuer de le chercher. On va juste rappeler un petit peu ce qui est à l'agenda sportif dans les prochains moments. Malheureusement, on voulait vous parler aussi de l'Alliance, mais ils sont éliminés. Malheureusement, le club de basketball de Montréal a subi une défaite crève-cœur. Ça, c'était hier soir à Scarborough contre les Shooting Stars. C'est une défaite de 92-86. Alors malheureusement, c'est terminé la saison pour l'Alliance. Il faut déjà penser, dans leur cas à eux, à la prochaine. Sinon, on en parlait tout à l'heure un petit peu. On rappelle évidemment que les Alouettes de Montréal sont en action. Ils se déplacent probablement même au moment où on se parle en Colombie-Britannique. Et ils vont aller jouer donc à Vancouver face au Lion. Ce sera demain soir, ça. Et puis ce sera heureusement à une heure normale pour nous parce qu'ils ont accepté de jouer un après-midi là-bas. Donc je crois que c'est à 19h ici. Si je ne m'abuse. Alors les Alouettes, donc, qui évidemment vont tenter de briser cette mauvaise séquence. Ça allait très bien. Et là, maintenant, ça va un petit peu moins bien pour les Alouettes. Il y a des problèmes, entre autres, chez les blessés. Il y aura un troisième quart arrière là, qui va être derrière le centre samedi soir. C'est Caleb Evans. Et le club, présentement, 5 victoires, 4 défaites. C'est pas dramatique, 5-4, hein, dirais-tu? On dit au football canadien. Tu sais, le football canadien, la saison est longue.
Tout peut arriver. Les Alouettes ont été victimes de beaucoup de blessures aussi cette année. Là. On essaie de survivre le temps que Davis Alexander n'est pas là. On est à sa deuxième période d'absence dans la saison aussi.
Oui, lui revient, donc... on avait calculé quoi? Début septembre, hein? C'est ça, dans son cas?
Oui, environ.
Ouais. Donc, on va tenter de voir ce qui se passe du côté des Alouettes de Montréal. Et donc, on rappelle que le match donc des Alouettes, donc c'est samedi soir. Et c'était Vancouver face au Lion de la Colombie-Britannique. Puis à part ça, il y a encore beaucoup de gens. Écoute, on a créé un monstre, je crois, avec notre histoire des Brewers. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur la messagerie texte. Qu'est-ce qui se passe avec les burgers? Donc, on rappelle ce qui s'est passé. C'est qu'il y a une chaîne de restauration du côté de Milwaukee. George Webb, ça s'appelle comme ça, qui, depuis des années, promet des burgers gratuits à toute la population de Milwaukee. Dans le cas où les Brewers atteignent 12 victoires de suite, ça, c'est arrivé mercredi. Et là, on se prépare. On a donné les coupons. Et la semaine prochaine, on va faire la distribution de plus de 100 000 burgers gratuits dans la ville de Milwaukee. Alors, si vous passez par là en fin de semaine, mettez la main sur un coupon et soyez patient. Est-ce qu'on l'a au bout du fil?
On l'a. Il est là.
Il est là. Alors, on y va tout de suite. Gabriel Grégoire, comment ça va?
Bonjour, Richard. Ça va très bien, toi?
Oui, je viens d'apprendre que tu es le cousin de Louis Grégoire.
Bien sûr. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'admiration pour ce gars-là, pour sa mémoire, pour... l'assiduité de sa passion sportive qu'il a transmis au Québec.
Et il a dit qu'il était bien content quand tu jouais avec les Alouettes parce que ça voulait dire qu'il y avait des tickets gratis.
Ah oui, il a dit ça. Ah, ça se peut, là. Par exemple, il a meilleure mémoire que moi. Je savais pas que j'étais généreux comme ça dans le temps.
Oui, apparemment. Gabriel, je suis très content de te parler. On s'est pas vu depuis très longtemps, depuis la belle époque de 110%, probablement.
Ça se peut, Richard. Je pense que je t'ai croisé dans la rue de Montréal, quelque part, avec tes flots. J'ai souvenir de ça. C'est la dernière fois que je t'ai vu.
Ouais, c'est vrai. Hey, je veux te parler de ça parce que, ça a été tellement un moment marquant de la télé québécoise, 110%. Est-ce qu'on t'en parle encore après toutes ces années?
Toujours. Beaucoup. Il y a, dans le pas que je suis une grande vedette, un joueur de football n'est pas une grande vedette à Montréal. Mais ceux qui ont écouté, ceux qui me voient, qui me reconnaissent malgré l'état vieillissant du body, ils me connectent tout de suite avec cette émission intellectuelle-là que tous les Québécois écoutaient à l'époque.
Oui, exactement. Donc, tu t'en fais parler à tous les jours, là.
Oui, écoute, ça revient parce que ça l'a marqué. Et nous, on le savait pas, mais on était chanceux, Richard. On avait des bonnes cotes d'écoute. On avait vraiment des bonnes cotes d'écoute. Donc, on était chanceux d'être là, d'être dans cet environnement-là pour, dans nos carrières. Ben moi, dans la carrière de journaliste, mais toi, dans ta carrière de journaliste.
Et comment t'en es venu à débarquer à 110%, Gabriel Grégoire?
Ouf, écoute, à l'époque, j'étais complètement inconnu. Moi, ma carrière au football était terminée. Je travaillais avec mes frères. Ma phase sportive était possédante. J'étais pas reconnu dans la rue. Il y avait absolument rien. Puis j'étais à l'aise avec ça, là. J'étais content d'avoir joué avec les Alouettes. Mais je faisais beaucoup d'environnement. On avait des gros problèmes environnementaux dans la région de Sainte-Martin. Et il est arrivé où il a fallu que je m'exprime sur un dossier, Puis j'ai dit au gars, moi, si j'étais à 110%, Penneau, Tremblay et Michou, ils passeraient par là. Fait que c'est le même que ça a commencé. J'ai donné mon opinion à ces trois gars-là. J'ai dit, j'aimerais ça les voir dans ma face. Fait que M. Éric Lavallée a dit, ah ouais. Ben, on va le mettre dans ta face. Fait que là, c'est là qu'il a fait une rencontre à 110%. Mais je pense que même eux autres, ils cherchaient sur la formule de débat où est-ce qu'on s'en va. Fait que quand que le grand Michel Villeneuve est arrivé, parce que M. Penneau, M. Tremblay ne sont pas venus au débat à l'époque, il y a juste M. Villeneuve qui est venu au débat. Mais ça a marqué, là. Ça a fouetté. Je te fous comme la marbre. Mais ça a allumé des cloches à TQS qui ont dit ben je pense que c'est là qu'on s'en va avec TQS.
Ouais.
Après, c'est ça qu'Éric Lavallée me dit, c'est ça que j'ai lu. Et moi, j'ai fait ma place un petit peu là-dedans parce que c'est la planète hockey. Villeneuve, M. Perron, M. Bergeron ont marqué des débats. C'était parfois drôle, parfois dramatique, parfois rude. Mais nous, à travers, on était comme le troisième trio de 110%, mais on a fait notre marque, là, avec Sergent Miotte, avec toi, avec Chikone, avec toute la gang. On réussit à faire notre marque à 110%.
Et moi, Gabriel, je ne sais pas si c'est la même chose de ton côté, mais moi, les gens me demandent souvent, est-ce que vous vous détestiez vraiment? Puis tu sais, moi, je dis toujours, non, c'était comme la lutte professionnelle. Tu sais, après ça, on allait prendre une bière. Toi, tu détestais pas personne en particulier, là?
Ben, j'ai jamais aimé Régent Tremblay. mais j'ai pas eu beaucoup de débats avec lui. Au début, je détestais Michel Villeneuve. Mais après qu'il était un compagnon de travail, puis ce gars-là... le monde détestait. Le monde venait à mon restaurant pour me dire « Ah, Villeneuve a fait ci, Villeneuve a fait ça. » Puis moi, il me disait des choses qu'on pouvait pas répéter en ondes. Moi, je leur disais « Écoutez, ce gars-là, il travaille, il se prépare à ses émissions, il a son style. » Chacun avait son style, Richard.
Oui.
Toi, tu étais l'intellectuel du groupe, tu le savais, fait que... Mais... moi, quand j'ai travaillé avec Michou à CKC, j'ai vu, tu sais, il y a des gens qui surfent, il y a des gens qui se préparent pas pour une émission, mais c'était pas le cas de Villeneuve. C'était pas le cas de Villeneuve. C'était un gars qui se préparait. De voir qu'est-ce qu'il a fait avec sa carrière, comment il a agi, ça y appartient, là. J'ai pas là pour le juger. Mais au début, j'avais hâte. J'aime ça. J'aime la guerre orale. J'aime les arguments. J'aime confronter, c'est facile pour moi là de faire une émission comme ça. Je me préparais aussi là, parce qu'il y avait rien de facile pour moi aussi là dans ce monde-là.
Ouais, parce que toi tu l'as dit, tu partais évidemment, tu avais joué avec les Alouettes à la fin des années 70, et après ça, ben t'avais fait complètement autre chose. T'étais allé, tu parlais de la restauration entre autres.
Ben nous, moi je suis plus là, j'ai travaillé à un restaurant pendant 40 ans. Maintenant, la restauration est à Ville-Mercier avec la troisième génération. Ils ont osé, ils ont fait un restaurant complètement fantastique. Fait que puis c'est un grand, grand succès. Mais nous, le début de restaurant Grégoire avec Marcel et François, c'était Aristide. C'est papa Aristide qui avait parti ça à l'époque, là. Fait que c'est toute une histoire. C'est une maudite belle business familiale, là, comme plusieurs business familiales qu'on trouve au Québec. C'est c'est une belle histoire, l'histoire de Grégoire là, à Sainte-Martine-Merci.
Mmh. Ah, puis je me souviens, dans un des 110%, Gabriel, où tu parlais, il y avait une controverse avec les... on parlait beaucoup des produits dopants puis des choses comme ça. Puis je me souviens d'une histoire que tu avais racontée à l'époque où toi, tu jouais. Tu parlais du pot de bonbons qui était dans le vestiaire des Alouettes à l'époque. Te souviens-tu de ça?
Du pot de bonbons. Ça, par exemple, va donner une affaire. Si tu vas peut-être passer si je te dis non.
Mais c'est parce que tu disais qu'il y avait un pot dans le milieu de une table, dans le milieu du vestiaire.
Ah non, c'était pas un pot de bonbons, c'était Fred Biletnikoff. OK, là, je te place, Richard. Fred Biletnikoff est arrivé. C'était une connaissance de Joe Scanella, le coach de l'époque, puis il a dit « Ah, j'ai un candidat à présenter. » Fred, le coach, a dit « Ben moi, je vais essayer ton candidat, mais j'aimerais ça que le gérant du candidat se réessaie pour les Alouettes de Montréal. » Fait que le gars, il dit « Voyons, je suis même trop vieux, patati. » Mais le Biletnikoff, j'ai eu la chance de jouer avec White Shoes, avec Biletnikoff. C'était un gars, cette légende-là du football américain, il venait à Montréal. D'une gentillesse, Richard. Et lui, il y avait un pot, mais c'était un pot de colle. T'as vu au baseball qu'est-ce qu'ils font maintenant les arbitres quand que les releveurs reviennent du champ pour... Les releveurs au baseball reviennent, les arbitres regardent la mitaine et regardent s'il y a de la colle ou pas. Mais Fred, il y avait de la colle dans son pot. C'était pas des bonbons, Richard, c'était de la colle.
OK.
Puis moi, cette colle-là, étant donné que j'avais une technique où j'agrippais beaucoup le vêtement des gardes ou des bloqueurs offensifs, je l'utilisais. Richard, ça marchait. Là. Dès que je mettais ma main sur le tissu, là, je t'ai collé. Puis je pouvais faire mes disco moves. Ça marchait. Fait que là, il y a un moment, il y a une game, on jouait contre Ottawa, puis le ballon, il était collé, parce que je pense à l'époque, Barnes a envoyé ça à Biletnikoff 3-4 fois, mais lui, il en avait plein les mains. Puis la colle était sur le ballon. Fait que là, les arbitres ont commencé à regarder toutes les mains. Ils se sont aperçus que Biletnikoff, il avait les mains noires, là, écoute. Fait que... Mais lui aussi, il prenait une drôle de boisson, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans.
Ah ouais, bon, c'est ça.
Yeah. Ouais, c'était pas un pot de bonbons, mais il y avait... Mais c'est Larry Fole qui est devenu... Oh mon Dieu, Larry Fole... J'ai joué avec lui, mais il est devenu un lutteur extraordinaire.
Lex Luger.
Oui, Lex Luger. Tu te souviens au camp d'entraînement, nous, on était épuisés, puis lui, à 8 heures le soir, il levait les haltères dans son camion, on se demandait où il prend son énergie. Fait que quand j'ai vu Lex Luger pour la première fois à la télévision, j'ai dit, wow, où est-ce qu'il a pris ça, ces muscles-là? Je reconnaissais pas. Le gars avait pas de jambes, il a pas de mollets, il a pas de cuisses. Puis là, tu d'un coup jouer ce monstre-là. Fait que disons qu'il n'a pas mangé la même soupane que moi le matin.
Ben, il y avait probablement un milkshake aux épinards secret, là. Toi, tu l'avais pas, là.
Voilà, Richard, voilà. T'es vraiment bon dans tes commentaires. Voilà.
et aussi, c'est drôle, Gabriel, parce que tu parles des joueurs, tu sais, qui partaient de la NFL pour venir jouer ici. C'est parce qu'à l'époque... Les salaires du football canadien, dans certains cas, ils étaient meilleurs qu'aux États-Unis, là.
T'as raison, là. Puis ça a commencé, tu sais, moi, j'ai joué contre un gars qui me démolit, qui s'appelle Dan Yoakum. C'était un NFL. Moi, pendant 5 ans, j'ai joué avec un gars qui était un NFL devant moi. Il était joueur étoile, malheureusement décédé. Mais ce gars-là, le football canadien, il donnait plus. C'est pour ça que M. Samberger, à l'époque, faisait un orgueil avec ses sous d'aller chez. Ça a commencé vraiment avec l'acquisition de Nebraska, Johnny Rogers.
Ouais.
Il a été chercher un Eastman, le premier. Écoute, c'était incroyable qu'est-ce qu'il avait signé. Il donnait plus de sous qu'à NFL. Tom Cousineau a eu plus de sous que la NFL. Il était supposé signer à Cleveland, mais Montréal, il a offert un pont d'or, fait que c'était un choix, puis Monsieur Berger, il avait pas peur, il a été chez un immense coach en Marv Levy, puis il a été signé ces gars-là, puis après, mais là, de ma mémoire, là, quand que Monsieur Berger a vendu, c'est qui le gars d'Edmonton qui a acheté l'équipe?
C'est pas Lenzo, c'est Scarbenia, non?
Scarbenia a voulu faire la même chose avec White Shoes, avec Overstreet. Avec tous ces gars-là, mais là, ça a foiré. Là.
Vince Ferragamo, Gabriel.
Ben ouais, mais Ferragamo était à côté de moi dans ma chambre. Là encore, là, Tu penses à un hot dog, tout ça. C'était le. Ben, tu te souviens du char, tu les as plus connus que moi, là. Nous, les joueurs, on avait la chance, tu sais, Vous étiez nos amis, maudits, les journalistes, tu sais. Quand je vois les batailles qu'il peut avoir au hockey où il y a tellement de méfiance envers les journalistes, ben, nous, on développait des amitiés, tu sais. Vlémain Giroir, Journal de Montréal, Amiotte à sa façon, c'était pas un ami, mais il était tellement présent. Mais à la presse, là, que ce soit Duguay puis toute la gang, King, c'était nos amis. T'sais, ça se fait plus aujourd'hui là, de ça. Là.
Ouais. Et je me souviens de Bob Duguay, qui était le célèbre journaliste à la presse à l'époque, Gabriel, que tu as bien connu, qui parlait de Vince Ferragamo et de ses ennuis au football canadien. Et Bob Duguay avait écrit « Vince Ferragamo a jamais vu le 12e joueur. »
Ah oh non, il l'a jamais vu. Une fois, il était blessé, puis Ferragamo a monté en haut au stade olympique. Puis là, il a regardé le terrain, il a regardé la zone début. C'est quoi ça? Il avait jamais compris les dimensions, la géographie d'un terrain de football canadien, parce qu'il n'était pas capable de mettre la puck dans les mains du receveur. Cette année-là, l'année où on signait Ferragamo, il y a un gars, un Canadien qui était corps arrière, je ne sais pas si tu te souviens de Jerry Dettilio.
Ben oui, gars de Montréal.
Mais Jerry, là, était dans son pic. Si Jerry avait joué cette année-là, parce que durant les pratiques, là, Jerry était le deuxième quart. Il y avait des séquences. Ferragamo faisait. Il y avait toujours des difficultés à rejoindre ses receveurs. Quand Jerry est arrivé, il était toujours, il atteignait ses receveurs. C'est lui qui aurait dû jouer, mais comment justifier le salaire de Ferragamo en le mettant sur le banc?
Mm-hmm.
Mais c'était pas le meilleur joueur, le meilleur corps arrière qui jouait pour notre équipe. C'était pas lui, là, à cette époque-là. C'était dramatique, là. On avait le corps gagnant, mais il pouvait pas jouer à cause du scénario du Calbania. Puis, ben, regarde, c'est de valeur, mais ça a foiré, puis ça a anéanti le football à Montréal à cette époque-là.
Oui, ouais, les Alouettes qui ont fini par malheureusement fermer boutique là, quelques années plus tard. Avant de te laisser, Gabi, il faut que je te parle de Marv Levy qui vient d'avoir 100 ans. Tu t'as parlé de lui, le coach légendaire. Est-ce que tu as encore peut-être contact avec Marv?
Ouais, j'ai vraiment cette chance-là. J'ai vraiment, je te le dis en toute humilité, je suis gêné de le dire. Fait que je contacte. Écoute, j'y écris pas tous les jours quand j'ai des niaiseries ou. Quand il était intronisé au Temple de la Renommée, j'ai toujours dit qu'il pouvait pas être au Temple de la Renommée du football canadien. Il me demande pourquoi. J'ai dit, t'es trop jeune. Écoute, il était élu à 98 ans, à 97 ans. Quelle erreur du football canadien. Quand il a eu 100 ans cette année, NFL, les Temples de la Renommée de la NFL ont souligné l'événement parce que c'est le seul centenaire qui est au Temple de la Renommée de la NFL. Et, écoute, Richard, j'ai pas goût de critiquer, tu me connais, je suis pas un gars comme ça, mais on n'a rien fait ici. Il y a eu un petit coucou des Alouettes, le Temple de la Renommée du football canadien, je sais pas s'ils ont fait que ça, Ligue canadienne. Pourtant, c'est un grand, là. C'est un grand. Moi, cette année, j'ai écouté tous les commentaires des gars de la NFL, des Bills, des Kansas, des Chiefs, qui ont joué pour Marv. On n'avait pas un coach rah-rah-rah qui plantait ses joueurs. On avait un coach intellectuel, un gars qui citait des grands poètes anglais. Moi, je me souviens, Richard, je cite Winston Churchill.
Ouais.
Je me retourne à la réunion. Il y a Jerry Dettilio, qui était mon ami. Je dis, Winston, as-tu parlé de Winston Churchill? C'est un coach au football, parce qu'un coach va citer Lombardi, d'autres coachs. Il dit, non, Gab, il cite le général américain, le général anglais, tout ça. C'était ça, c'était Winston Churchill. Mais lui, il a fait des études en poésie. Il a été un maniaque des guerres. C'est un intellectuel, il a écrit de nombreux livres. Il citait Winston Churchill. Mais après, il citait Winston Churchill à Kansas City. Puis il avait le même langage avec Buffalo. Et quand j'écoute les commentaires de ces gars-là, les grands de la NFL qui ont joué pour lui, ils ressentent la même chose que moi à Montréal. On a eu un grand, puis il est ignoré. J'ai dit une fois, j'ai déjà aimé ça, j'ai dit dans le stade olympique, juste avoir un petit bronze de Marv Levy. Mm. Tu sais, des fois, le coach le plus douteux du Canadien est dans le livre des sports plus grand que Marv Levy. C'est ça qui me désappointe un peu de ça. C'était un foutu grand coach, vraiment, là, qui respectait l'individu en premier, puis après, c'était l'équipe. Là. Il y avait pas de rah-rah. Tu l'as connu un peu?
Oui.
Tu nous suis, t'as le même âge, toi, là.
Pas que toi, non.
Non, je le sais, mais t'étais là.
Oui, j'étais là. Ben, merci beaucoup, Gabi, pour ton temps ce matin. C'est très apprécié. C'est toujours le fun de te parler. Puis je te souhaite une excellente journée.
Ben, t'es bien gentil. Au revoir. Salut à toute l'équipe et tes auditeurs. Bye.
Salut bien. Gabriel Grégoire, ancienne gloire des Alouettes de Montréal, ancienne gloire de 110%.